vous invite à prendre vos Bibles et trouver avec moi Philippiens chapitre 3. Nous revenons, comme vous le verrez, dès le premier verset de ce chapitre sur ce thème de la réjouissance et de la joie. Philippiens, c'est la lettre de Paul aux chrétiens dans la ville de Philippe. C'est pour cela qu'on appelle Philippiens. Chapitre 3, le premier verset, nous dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Et pour vous, cela est salutaire. Nous avons vu la dernière fois, je crois qu'il y a 15 jours, que cette réjouissance dans le Seigneur n'exclut pas d'autres causes de réjouissance. On a vu des preuves bibliques pour cela. Que cette réjouissance peut être exercée de concert avec d'autres émotions. Nous voyons même Paul qui pleure en train d'écrire cette même lettre. Que cette réjouissance exige quand même une participation active de notre part, et nous avons vu ce que c'est. Et puis que cette réjouissance est surnaturelle. Nous avons un peu isolé cette idée de se réjouir dans le Seigneur, pour la voir d'un peu plus près, pour la contempler un peu mieux. Et pourtant, je crois qu'il faut reconnaître, on ne peut pas arrêter là, parce qu'il faut reconnaître qu'aucune vertu chrétienne ne peut être pratiquée dans l'isolement. Aucune. Par exemple, vous ne pouvez pas vivre une vie d'honnêteté à l'exclusion de l'amour. On ne va pas dire, moi je vais être honnête, mais je ne veux pas démontrer de l'amour. Aucune vertu chrétienne ne peut être vécue dans l'isolement. Et donc, de la même façon, on ne peut pas vivre une vie de joie ou une vie de réjouissance dans le Seigneur indépendamment des autres vertus chrétiennes. On va dire, pour moi, je vais isoler cette idée de réjouissance et je ne vais pas prendre garde aux autres commandements de la Bible. Ça ne peut pas se faire. Une vie de joie dans le Seigneur dépend d'elle-même de la vigilance que nous portons dans d'autres domaines de la vie, en fait. Et c'est pour cela que nous avons dans ce passage pas seulement un commandement isolé de se réjouir dans le Seigneur, mais après les ingrédients essentiels à une vie de joie dans le Seigneur. C'est-à-dire ce qu'il faut dans notre vie pour pouvoir maintenir donc cette joie dans le Seigneur. Donc après avoir vu le commandement de se réjouir dans le Seigneur, je veux tirer votre attention sur le fait que je vous donne un peu ce que je veux considérer et puis le voir dans la Bible. Le fait qu'une vie de joie est maintenue en nous remémorant de ce que nous savons déjà. Ou une autre façon de dire la même chose, en acceptant le ministère de la répétition. Comment maintenir une vie de joie? En parcourant votre vie chrétienne, eh bien, il faut vous remémorer continuellement de ce que vous savez déjà. Regardez votre Bible, le verset 1, je l'ai aussi ici sur l'écran. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Je ne me lasse point. C'est-à-dire, ce n'est pas gênant pour moi. Ce n'est pas pénible pour moi de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul a en tête ici ce qu'il va bientôt nous dire dans le verset 2. Donc, c'est ces mêmes choses dont il parle dans le verset 1. C'est une répétition, en fait. Soit d'une instruction qu'il leur a donnée lui-même auparavant, peut-être par écrit ou pendant qu'il était là, parce que c'est lui qui a fondé l'Église, soit peut-être quelque chose qu'ils avaient reçu en personne d'Épaphrodite ou de Timothée, parce que nous savons dans la lettre qu'ils devaient visiter aussi l'Église. Mais en tout cas, notre but pour le moment, c'est pas de découvrir quand ou comment ils ont entendu ces choses pour la première fois, mais tout simplement de reconnaître qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une répétition. Si vous êtes parent, vous savez comment vous devez constamment répéter les mêmes choses encore et encore. Avant de venir en France, on avait un chien. Et ce que j'appréciais, parce que le chien n'avait pas de nature pécheresse, c'est qu'avec un peu de travail, j'ai pu apprendre des choses au chien et il ne l'a pas oublié. En fait, on est revenu après 3 ans pour lui voir, parce que c'est mes beaux-parents qui le gardent maintenant. Et il s'en souvient toujours de ces mêmes choses. Mais les êtres humains, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? On peut apprendre quelque chose et puis on peut l'oublier. Il faut le re-apprendre, il faut répéter. J'espère qu'en tant que parents, ce ministère que nous avons de répétition ne nous lasse point, que c'est pas gênant, que c'est pas pénible. Oh, ça fait 36 fois que je le dis, hein. Il faut pas avoir cette attitude. Mais permettez-moi de demander à ceux qui reçoivent ce ministère de la répétition. Donc, soit vous êtes enfant, de la part de vos parents, soit vous êtes étudiant, de la part de vos professeurs, soit vous êtes membre de l'Église et vous êtes là toutes les semaines et on entend les mêmes choses, souvent. Acceptez-vous ce ministère comme quelque chose de salutaire? Ou avez-vous assez d'entendre les mêmes choses encore et encore? J'ai dû téléphoner la semaine passée à mon médecin parce que j'avais quelques questions médicales à lui poser. Et il me dit, ah, ça tombe bien parce que j'ai une question théologique à vous poser. Donc j'ai dit, c'est parfait, peut-être on peut faire un troc, hein. Une consultation médicale contre une consultation théologique. Mais en fin de compte, ça n'a pas marché comme ça parce que c'est moi qui a payé à la fin et pas lui. Mais au cours de la conversation, il me parle d'un prédicateur anglo-saxon qui dit des choses, selon lui, très intéressantes et nouvelles. Donc, après avoir parlé de lui, je lui dis, mais je veux vous suggérer le nom d'un autre prédicateur, anglo-saxon aussi, parce qu'apparemment, il aime bien écouter en anglais. Et il parle très clairement, donc il est facile à suivre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il ne fait qu'expliquer et élucider le texte biblique. Oh, il me dit presque offensé. Ça fait 35 ans depuis que je lis la Bible, j'ai pas besoin de ça. Mais cet autre homme, il dit des choses nouvelles. Voilà, donc il veut écouter ce qui est nouvelle. Et en fait, Actes 17, verset 21, nous dit que les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Hein? Et les choses n'ont pas vraiment changé depuis. Il y a des gens qui sont comme les Athéniens, ils veulent toujours entendre les dernières nouveautés et ils ne supportent pas la répétition. Je me souviens d'une dame à Toulouse qui a dit une fois à mon père qu'elle n'avait pas besoin de lire la Bible parce qu'elle l'avait déjà lu dans son entier. J'ai déjà lu la Bible, j'ai pas besoin de la relire. Mais vous savez qu'une grande partie du ministère spirituel qui se passe dans n'importe quelle église, hein, que ce soit depuis la chaire, comme on dit, ou dans les écoles de dimanche, ou l'après-midi, ou même en privé, une grande partie, c'est simplement une répétition, une réitération des choses déjà connues. C'est Jésus lui-même qui a dit en Matthieu 13, 52, que tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors, il faut se poser la question, à quoi bon toute cette répétition? Pourquoi se rappeler de ces vérités bibliques? Quel est l'avantage de revoir et encore les mêmes principes élémentaires de la vie chrétienne, de l'Évangile? À quoi bon de répéter les mêmes vérités, les mêmes instructions, semaine après semaine? À quoi ça sert pour vous de venir chaque dimanche quand vous allez quand même rien entendre de nouvelles? On se lasse après un certain temps, non? Bien, regardez la fin du verset 1. La fin du verset 1. Pour vous, cela est quoi? Pour vous, c'est salutaire. La Bible du Semeur nous dit, pour cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Et c'est intéressant, c'est une belle image, ce mot salutaire, ou ce qui contribue à votre sécurité. Ça se compose dans le grec d'un préfixe négatif, et puis c'est attaché à un mot tiré d'un verbe qui signifie de faire trébucher ou de faire tomber. Donc, en fait, c'est quelque chose qui empêche cela. C'est quelque chose qui vous protège de tomber ou même de chanceler. Et donc, c'est utilisé pour décrire tout ce qui a une certaine stabilité ou une fermeté suffisante pour ne pas être renversé. Donc, on peut penser à cette image de stabilité. On peut le secouer, mais ça ne va pas tomber quand même. Et cette répétition est salutaire dans ce sens. Ça vous affermit, ça vous rend stable, ça vous empêche d'après tomber ou de vous trébucher dans votre vie chrétienne. Ça ne peut que contribuer à votre sécurité d'entendre les mêmes choses encore et encore et encore. Donc il faut se dire, ne nous fatiguons pas de la réitération de ce que nous connaissons déjà. Il faut se dire, il faut se réjouir, il faut que je me réjouisse dans le ministère de la répétition parce que nous en avons besoin. Il est salutaire pour nous. Donc il ne faut pas s'ennuyer à entendre les mêmes choses. Il ne faut pas se mettre à la recherche de tout ce qui est nouveau et alléchant. Balzac a dit qu'il y a une impatience d'avenir qui nous fait tous piaffer, caracoler, tout essayer et puis tout laisser. Et c'est vrai, n'est-ce pas? On veut toujours la suite. Hein? On est toujours impatient avec ce qui se passe actuellement. On veut toujours quelque chose de plus. Et c'est pour cela que notre nature humaine ne supporte pas, après un certain temps, la répétition, parce qu'on se dit, mais il faut quelque chose de plus, il y a quand même un secret. Non, montre, donne-moi quelque chose de nouveau. On devient impatient. Mais le cœur humain abandonné à lui-même va toujours errer. Ça va toujours errer. Et donc il faut toujours le rappeler continuellement, le réajuster à la boussole qui est la parole de Dieu. On ne peut pas se dire, ah, ça j'ai appris quand j'avais 20 ans, donc j'ai plus besoin de ça. Vous savez tous que la vie ne marche pas comme ça. Savez-vous même que dans la Bible, il y a un livre tout entier qui est consacré à ce ministère de la répétition. Savez-vous ce que c'est, ce livre de la Bible? Son titre même indique son but. Deutéro veut dire deuxième ou une répétition. Deutéronome signifie la deuxième loi, pas une nouvelle loi en fait, mais la même loi répétée une deuxième fois, une nouvelle fois. Donc après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, à la fin de sa vie, Moïse écrit le Deutéronome, la deuxième loi, la répétition de la loi. C'est Moïse qui leur avait donné la loi, mais maintenant, juste avant de mourir, il rassemble toute la nation et il leur dit, permettez-moi de vous la donner encore une deuxième fois. Et c'est pour cela que, vous savez peut-être, quand vous regardez dans vos Bibles, vous avez trouvé les 10 commandements. Par exemple, en Exode chapitre 20, et puis vous allez les trouver répétés en Deutéronome chapitre 5. Parce que même Dieu lui-même, c'est même dans la Bible cette répétition des choses essentielles. Alors je vous invite de trouver, peut-être gardons un droit dans ce passage, mais 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Et nous allons voir ce que Pierre va nous dire à ce sujet. 2 Pierre chapitre 1, je commence au verset 12. C'est Pierre maintenant âgé lui-même, un peu comme Moïse hein, quand il a écrit Deutéronome. Et il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Hein, ou je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa vieillesse? Il veut rappeler les mêmes vérités. Bien que, vous avez vu ça? Bien que vous les sachiez, et même que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, il dit, je ne vous dis pas que vous ne savez pas ces choses. Je ne dis même pas que vous n'êtes pas encore affermi dans ces choses, mais quand même je vais prendre soin à vous les rappeler encore une nouvelle fois. Regardez le verset 13. Et je regarde comme un devoir, c'est-à-dire quelque chose qui lui est imposé. Donc c'est une bonne chose à faire. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, là il parle de sa vie, hein, aussi longtemps que je suis vivant, de vous tenir en éveil, et puis le Louis II nous dit, par des avertissements. Mais en fait, c'est plus littéralement, je ne sais pas si vous avez de la place dans la marge pour écrire cela, c'est plus littéralement de vous tenir en éveil par mes rappels. Et encore ce mot rappel. De vous tenir en éveil par mes rappels. 14. Car je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors, comment est-ce qu'il a eu soin? Qu'est-ce qu'il a fait pour que même après sa mort, il puisse continuer à se rappeler de ces choses? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait d'enregistrement, mais il a écrit un livre. En fait, c'est ce livre dont il parle, c'est la lettre dont il parle. Il dit, je vais vous écrire cette lettre pour que même après ma mort, vous puissiez quand même toujours vous rappeler de ces mêmes choses. Et c'est intéressant que 2000 ans après, on peut prendre cette même lettre et revoir encore et encore ces mêmes paroles et remémorer ces mêmes vérités. Pourquoi on le fait? Pour nous, il le dit dans le texte, pour nous tenir en éveil. Ou comme Philippiens nous dit, parce que c'est salutaire pour nous. J'avais un professeur de théologie au séminaire qui nous disait souvent, la nouveauté n'est pas une vertu dans ma profession. C'est-à-dire en tant que professeur de théologie, la nouveauté n'est pas une vertu. Hein? Ah, j'ai trouvé quelque chose de nouvel. Ben non, parce que la Bible, on l'a depuis au moins 2000 ans, donc on a dû inventer quelque chose si on a trouvé une nouveauté. Donc il ne faut jamais se considérer comme étant au-dessus de cette nécessité de revoir les mêmes principes, même les principes les plus élémentaires de la foi. C'est pour ça dans la vie, dans la parole de Dieu, quand vous la lisiez, et même à l'église, on se voit toujours en train de revenir aux mêmes vérités, aux mêmes principes, de se remémorer, de se rappeler des choses que nous savons souvent déjà. Philippiens 3, 1 nous dit, au reste, mes frères, pour revenir à notre texte, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Donc, une vie de joie est maintenu en nous remémorant des vérités que nous savons déjà, en acceptant le ministère de la répétition. Et ceci nous mène à poser cette question. De quoi avons-nous besoin de nous rappeler? De quoi avons-nous besoin de penser, de revoir et revoir? Et moi je trouve un peu presque fascinant, mais certainement intéressant, parce qu'en parlant de la répétition, il vient de parler de la répétition. Regardez ce qu'il va faire juste après. Il va se répéter. D'accord? Il dit, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Et puis il le fait. Regardez le verset 2. Qu'est-ce qui est répété trois fois de suite dans le verset 2? Une répétition qui insiste sur l'importance et l'urgence de cet ordre. Qu'est-ce qu'il dit trois fois de suite? Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde, vous voyez ça, le verset 2? Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, et il ne parle pas de trois groupes séparés ici, il parle des mêmes personnes, mais il dit trois fois de suite, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Donc, je crois que nous pouvons tirer cette vérité de ce principe et de ce verset, qu'une vie de joie est maintenue grâce à l'exercice continuel du discernement. Du discernement. Il faut prendre garde. Donc, non seulement est-ce que nous devons accepter le ministère de la répétition, revenir, écouter, lire, apprendre, mais nous devons exercer la discipline du discernement. En fait, la répétition dont Paul parle au verset 1, quand il dit,
Ça me gêne pas, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, c'est lié à cet appel de prendre garde. Ce que je vais répéter une nouvelle fois, et dont je ne suis pas gêné de le faire, et je trouve salutaire pour vous, c'est que vous preniez garde. Prenez garde, prenez garde. Et si vous regardez, il y a un lien étroit entre ce commandement de se réjouir dans le Seigneur, ça c'est le verset 1, et puis cet appel à prendre garde au verset 2. Et ce que cela nous dit, c'est qu'il y a une telle chose qu'une fausse joie. D'accord? Donc, le but de la Bible n'est pas simplement que vous vous réjouissez, mais que vous vous réjouissiez dans le Seigneur. Donc, Paul dit, attention, attention, toute réjouissance, on va dire même du type religieux, n'est pas forcément une réjouissance dans le Seigneur. Je peux vous montrer ça. Regardez le verset 19, hein, Philippiens chapitre 3 toujours, mais le verset 19, il parle de certaines personnes et il dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est-à-dire, ils se glorifient, c'est très lié à cette idée de se réjouir, mais dans ce qui fait leur honte, en fait. 1 Corinthiens chapitre 13, qui est le grand chapitre de l'amour, nous dit que le vrai amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. 2 Thessaloniciens 2.12 nous dit que ceux qui prennent plaisir à l'injustice, c'est-à-dire ils se réjouissent dans l'injustice, seront condamnés. Donc le but n'est pas simplement d'être heureux. Il y a des choses dans lesquelles on peut trouver de la joie, pour lesquelles on va se voir condamné, même dans le monde. Hein. Je trouve de la joie à taper sur mes camarades. Eh bien, on ne va pas accepter ça. Donc c'est pour cela qu'accouplé à l'ordre de se réjouir dans le Seigneur et cette mise en garde contre ceux qui pourraient vous enduire à vous réjouir dans des supercheries. Et je crois qu'il n'y a rien, presque rien de pire qu'une fausse réjouissance religieuse. Quelqu'un qui se réjouit dans ce domaine religieux de ce qu'il a pu faire ou de ses connaissances ou de ce qu'on lui a donné ou confié. C'est une réjouissance, on va dire même religieuse, qui prend dans la religion, mais c'est une fausse réjouissance. Et donc Paul veut créer cette distinction. Je veux que vous le notiez. Qu'il y a une distinction que Paul veut démontrer et rendre très claire aux Philippiens, afin qu'ils puissent la voir et la reconnaître. C'est pour ça que je parle de discernement, parce qu'il va leur montrer deux groupes. Regardez le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Alors ça, c'est un groupe là-bas. Hein. Mais notez que nous sommes différents. Regardez les versets 3. Car les circoncis, c'est-à-dire les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Bon, si je peux vous demander de mettre à côté un moment toutes ces questions concernant l'identité de ces personnes décrites au verset 2. Hein, c'est qui ces chiens? C'est intéressant. On y reviendra une autre fois, j'espère. Mais je veux noter tout simplement que Paul tranche entre ce qu'il va appeler les vrais circoncis, plus tard il va expliquer que c'est une circoncision du cœur, pas physique, et les faux. Hein, il y a les faux circoncis, ça c'est le verset 2, hein, il le rappelle, les faux circoncis à la fin du verset 2, et les vrais circoncis, verset 3. Donc nous allons entrer en détail plus tard, mais je tiens à vous remarquer ce que Paul les exhorte de faire. Il leur demande de trancher entre le vrai et le faux. D'exercer la discipline de discernement. Trois fois il leur dit, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Et même ce mot est intéressant, ça vient d'un verbe qu'on pourrait traduire par regarder ou guetter. Donc, en fait, il leur dit, ouvrez grand les yeux, regardez, attention. Faites attention, On dit des fois, fais gaffe, hein, méfiez-vous. C'est un impératif présent qui nous appelle à une action continuelle et habituelle. Ne cesse pas de guetter l'horizon, il leur dit. Regarde, dit Paul au verset 3. Nous, les vrais chrétiens, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Mais sachez discerner entre les vrais et les faux. Pas tout le monde est vrai. Pas tous qui se disent chrétiens sont chrétiens. Quant à ces autres hommes, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Et c'est aussi intéressant qu'il ne les appelle pas par leur nom, ni par leur titre, ou des diplômes, peut-être qu'ils ont reçus. Mais avec des adjectifs précis et quand même très descriptifs. Les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis. Il faut comprendre ça dans le contexte judaïque à l'époque. Mais, il appelle un chat, je crois, comme on le dit. Vous voyez ici l'importance pour un pasteur même de se tenir de vous devant le peuple de Dieu et de leur dire, méfiez-vous, prenez garde. Ce serait incroyablement naïf et bibliquement mal informé de prétendre qu'un ministère de discernement n'est pas essentiel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs qui refusent intentionnellement de dire à leurs membres de se méfier en n'importe quel ministère ou quel prédicateur, même si ces personnes sont parfois plus éloignées de l'Évangile que ces hommes dont Paul parle ici. Ils refusent délibérément d'enseigner aux membres de leurs églises de pratiquer, de discerner entre les vrais ministres de l'Évangile et les faux. Ils minimisent les différences et on ne leur trouverait jamais en train de dire avec empressement « Méfiez-vous, attention, prenez garde !» Et quand on leur pose des questions, parce que j'ai vu des entrevues où ils parlent de cela, c'est parce que c'est fait exprès, ils disent que c'est leur désir de ne prêcher qu'un évangile positif. Je connais un prédicateur, enfin pas personnellement, mais il a 40 000 personnes aux États-Unis, et il ne parle jamais du péché ou de l'enfer, parce qu'il dit « Moi, je t'ai appelé à ne prêcher qu'un évangile positif. » Donc, il refuse d'établir une distinction entre le vrai et le faux. Il dit que cela sèmerait la zizanie. Mais je peux vous dire, mes amis, sous l'autorité de la Bible, qu'il y a des moments où il faut marquer la distinction. Ce sont des mauvais ouvriers. Ils sont peut-être très gentils. Mais quant à l'Évangile et la parole de Dieu, ce sont des faux. Nous sommes la vraie circoncision, il dit. Nous, à la différence de ceux-ci, adorons Dieu en esprit. Nous, verset 3, nous glorifions Jésus-Christ et nous ne mettons point notre confiance à la chair. C'est ça qui distingue entre les deux. Et il y a tout au long de l'Écriture, quand vous lisez la Bible, ce thème glorieux d'un salut gratuit, complet, pour tous ceux qui viennent à Christ pour le pardon. Et laissez-moi simplement dire aux pécheurs ce matin, parce que nous le sommes tous. Mais peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez pu faire, si vous voulez venir à Christ pour être sauvé aujourd'hui, il ne vous mettra pas dehors. Il ne vous refusera point. Si vous venez à lui, vous déposez vos armes de rébellion, vous venez à lui dans la foi, vous aurez le salut. Ça, c'est un thème qui revient, c'est le thème de la Bible. Mais quand même, à côté de ce thème glorieux du salut par la grâce et le thème concomitant d'une préoccupation critique, je ne sais pas comment trop le dire, mais une préoccupation analytique, c'est-à-dire combinée à la présentation de l'Évangile dans la Bible, il y a quand même ce souci des auteurs de la Bible, du Nouveau Testament, que personne ne soit trompé, dupe ou leurré. Et donc, il faut plus qu'une présentation positive de l'Évangile. Il y a plus que ça dans la Bible. Il faut plus qu'une présentation positive de l'évangile pour secouer quelqu'un qui est trompé, qui se croit sauvé, qui ne l'est pas peut-être. Et c'est pour ça que nous avons répété dans le Nouveau Testament ces défis à ceux qui professent connaître Christ, d'examiner eux-mêmes, d'examiner leur vie, afin de s'assurer que leur profession est authentique. Vous pouvez lire Jacques, vous pouvez lire 1 Jean, vous pouvez lire Romain. Dans toutes ces lettres, vous allez trouver ces appels à vérifier si votre profession est réelle. Parce qu'il faut faire plus que simplement donner aux gens une présentation positive de ce que c'est l'évangile. Et c'est un fait qui donne à réfléchir. Mais Jésus lui-même a fait cela. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Acceptez-vous cette vérité. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont fait beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça fait frissonner presque. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, Jésus lui-même a fait ça. Cette mise en garde contre le vrai, entre le vrai et le faux. C'est en raison de ce manque de discernement, cette duperie même, qui concerne pas souvent l'authenticité de la profession des autres, mais des fois même ma propre authenticité. Est-ce que je suis lui-même dans le Seigneur? Il y a des gens qui sont dupes par rapport à leur position en Christ. Ils se croient être ce qu'ils ne sont pas. C'est pour cela que les auteurs du Nouveau Testament font beaucoup plus que présenter un évangile positif. Beaucoup plus. Je vous donne quelques exemples. Quand les pharisiens sont venus à Jean-Baptiste, il a enfreint une des règles cardinales de la politesse moderne, en les accueillant avec ces paroles. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il n'a pas dit, ah, vous êtes membre d'église, ah, d'accord, ça va bien, c'est bien, vous êtes sauvés. Jésus les a aussi appelés hypocrites, non pas pour être méchants, mais pour les alerter à leur propre aveuglement, afin qu'ils puissent venir à Christ pour le salut. Paul a mis Timothée en garde à propos de ceux qui ont l'apparence de la piété, vous voyez. Ils ont l'apparence de la piété, il y a beaucoup de gens comme ça, mais renient ce qui en fait la force. Donc en réalité, ils ne sont pas ce qu'ils ont l'apparence d'être. Il avertit Tite contre des personnes qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous avez des pharisiens, ils sont des leaders religieux. Vous avez ceux qui ont l'apparence d'être sincères. Et vous avez ceux qui professent connaître Dieu. Et dans les trois cas, ils ne sont pas ceux qui prétendent être. Jude alerte l'Église qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur. Et où est-ce qu'on trouve ces gens? Ils se sont glissés même dans l'Église. Vous voyez ça? On ne les a pas vus venir. Jacques et 1 Jean donnent des marques aux croyants pour les aider à distinguer entre le vrai et le faux. Par exemple, Jean dit en 1 Jean chapitre 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » D'ailleurs, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Même d'ailleurs, ce que je vous dis, il faut regarder votre Bible pour vérifier. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes se sont venus dans le monde. reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Et puis il continue. Oui, il va donner des étapes à suivre pour reconnaître ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Donc il poursuit après sa pensée. Donc ce que je veux souligner, c'est ceci. J'espère que vous êtes avec moi, que le ministère, le ministre de Dieu, c'est-à-dire le pasteur, l'ancien de l'Église, ne doit pas seulement expliquer comment devenir chrétien. Il ne doit pas arrêter là. Il ne doit pas arrêter là, mais il doit dévoiler les véritables marques de ce que c'est un chrétien, pour que les gens puissent se voir eux-mêmes et même les autres, pour qu'il n'y ait pas une assemblée pleine de gens qui sont dupes par rapport à ce qu'un vrai chrétien et ce qu'il n'est pas. Donc l'homme de Dieu, le pasteur, l'ancien, doit apprendre à son église comment distinguer les chiens qui dispersent et détruisent le troupeau, des vrais bergers qui rassemblent et nourrissent le troupeau. C'est ici l'image même des chiens. Et il faut distinguer entre les chiens qui vont disperser, détruire les brebis, des vrais bergers qui vont rassembler et nourrir les brebis. Et donc il appelle les membres de son église à faire attention, à prendre garde contre les mauvais ouvriers. Et il les apprend à distinguer entre les mauvais ouvriers et les bons. Donc, on peut tirer cette conclusion que si un individu ou une église dans son ensemble veut maintenir une vie de joie, une vie de réjouissance dans le Seigneur, il faut accepter le ministère de la répétition et il faut être constamment sur le qui-vive et pratiquer la discipline du discernement. Et nous, en tant qu'église, nous ne voulons jamais être méchant. N'est-ce pas? On ne parle pas ici d'être méchant. On verra plus tard, même en les appelant chiens, c'est pas juste pour être méchant, c'est pour décrire ce qu'ils font. On ne veut pas simplement insulter gratuitement les gens, surtout pas les frères en Christ, même s'ils diffèrent de nous dans certains points de doctrine même et de pratique. Ils sont quand même des frères et des sœurs en Christ. Mais en même temps, nous devons reconnaître qu'il y a des hommes bien intentionné qu'il le soit, dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font, ils tordent l'évangile. Ils peuvent même parler beaucoup de Christ. Ce peut être par omission, parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Peut-être des fois par addition, c'est-à-dire ils donnent la vérité, mais après ils ajoutent qu'il faut faire cela aussi. En fait, c'est ce qui se passe ici. Ou des fois par contradiction, mais quoi que ce soit, ça termine par truquer, par bidouiller, par fausser l'Évangile. Et donc, il faut se méfier. Je sais que c'est pas populaire, c'est pas actuel, c'est pas mode, comme on dit, parce qu'on veut tout accepter. Mais mes amis, il faut se méfier, il faut prendre garde. Nos vies de réjouissance et de joie sont liées à l'exercice du discernement. Et Dieu voulant, nous verrons une autre fois ce qu'étaient les distorsions de l'Évangile qui les rendaient si dangereuses et à l'expérience de la joie des Philippiens. Mais je termine avec cette question. Je veux que vous la posiez à vous-même. Savez-vous trancher entre les mauvais ouvriers et les vrais? Est-ce que vous pouvez trancher entre les faux et les vrais, les mauvais ouvriers et les vrais? Parce que si vous voulez vraiment vous réjouir dans le Seigneur, il faut savoir le faire. Votre joie éternelle y dépend, en fait. Si vous ne prenez pas en garde, ou si vous ne prenez pas garde contre ces mauvais ouvrier, vous allez vous trouver en train, ce qui va se passer à la fin, vous allez vous trouver en train de vous réjouir dans ce qui est faux, et non pas dans le Seigneur. Ça se passe si facilement, hein. Et on pense qu'on se réjouit, dans un sens, on se réjouit, mais ce n'est plus dans le Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit que 1 Corinthiens 13 nous dit que le vrai amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 2 Thessaloniciens 2:12 dit que ceux qui prennent plaisir ou qui se réjouissent dans l'injustice seront condamner ceux qui se réjouissent, qui mettent leur gloire en eux-mêmes, ou dans ce qu'ils étaient, ou leur héritage, ou juifs, le fait qu'ils ont été circoncis. Et si vous lisez plus tard ce chapitre, vous allez voir que Paul, il va énumérer toute une liste de choses. Il est hébreu des hébreux, il est pharisien, et toutes ces choses étaient une gloire pour lui. Il se réjouissait dans ces choses, en fait. Il prenait beaucoup de joie dans ces choses, et il dit maintenant, ce sont devenus comme de la boue pour moi. Je les ai rejetés tous, parce que maintenant, je vais me réjouir seulement dans le Seigneur. Alors, sachez que les avertissements bibliques ne sont pas des choses négatives, ils sont en revanche essentiels pour notre joie dans le Seigneur. Je vous exhorte donc d'accepter le ministère de la répétition et de pratiquer continuellement le discernement biblique pour pouvoir discerner entre le vrai et le faux. Et c'est ce que Dieu, c'est une capacité que Dieu a donnée à chaque chrétien. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de venir et dire au pasteur, est-ce que c'est vrai ou faux? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous lisez un Jean, vous allez voir que l'Esprit est en nous et qu'il nous enseigne. Il enseigne en fait qu'à chaque croyant, avec l'Esprit de Dieu en lui et la parole de Dieu devant lui, peut discerner entre le vrai et le faux. S'il s'y applique, s'il met son cœur. Et s'il veut vraiment le faire pour la gloire de Dieu. Il faut vivre une vie de joie, il faut se réjouir dans le Seigneur. Mais voici les choses que Dieu nous donne pour nous aider à maintenir une vie de joie. Accepter ce ministère de la répétition et pratiquer continuellement le discernement biblique. Prions le Seigneur.